Alors, quand vous choisissez un titre silencieusement, est-ce cela, silencieusement, un processus ?
Alors, c'est plusieurs choses, silencieusement. C'est d'abord, quand vous rentrez dans la salle de lecture, d'abord, les archives sont silencieuses. Les historiens disent qu'elles crient, qu'elles nous appellent, qu'elles, voilà, Michelet nous dit que... Mais en fait, en l'occurrence, elles sont silencieuses. Donc, quand on rentre dans ce bâtiment, on rentre d'abord dans du grand silence. La nuit, ici, c'est... ne peut pas être plus silencieux. Et pourtant, il y a 450 km de gens qui parlent. Hein. Donc, c'est silencieux. Ensuite, une salle de lecture, c'est un moment, c'est comme une bibliothèque, c'est très silencieux. Et c'est rempli de gens qui se connaissent pas et qui font une foule. On les voit tous ensemble travailler, c'est une foule, mais de gens qui ne se connaissent pas et qui ne cherchent pas à se connaître. Parce que c'est soit des gens qui viennent pour des histoires généalogiques, des histoires qui viennent, parce qu'il y a eu des spoliations, etc. Donc des choses qui sont un peu douloureuses. Soit des gens ou des chercheurs qui viennent pour un sujet précis et qui veulent pas que les autres chercheurs d'à côté sachent sur quoi ils travaillent. Parce que tout le monde est un peu jaloux de sa recherche. Hein. Donc il y a une sorte de silence ténu, enfin de silence qui vient à la fois du fait que c'est un lieu de travail, de concentration, et aussi un lieu d'isolement, enfin de chacun travailler sur son sujet, quoi, et puis ça se partage pas. Après, les archives sont aussi elles-mêmes silencieuses du monde, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, enfin moi avant de venir ici, je pense pas que je sois plus ignorant que les autres, je ne savais pas à quoi ça servait les archives, je savais pas comment ça a été créé à la Révolution française, ils ont décidé qu'on ne pouvait pas initier une démocratie sans que le peuple puisse vérifier, enfin contrôler le travail de ses élus. Et donc c'est pour ça qu'on a commencé à fabriquer des archives, c'est au moment de la démocratie, c'est-à-dire que maintenant le peuple a accès à ce que ses gouvernants ont fait. Et donc du coup c'est aujourd'hui personne ne sait ça, et aujourd'hui ces archives font silence alors qu'elles nous disent beaucoup de choses sur ce qui s'est passé il y a pas si longtemps ou il y a très longtemps. Et savoir tout ça, c'est pas pour ne pas faire d'erreurs, c'est pour se donner des fondations. C'est comme les fleurs, c'est pour avoir les mains dans la terre et que ça remonte, quoi, et que ça s'imbibe. Et je trouve ça assez important de savoir d'où on vient. Le « on », il est très ambigu, parce que je veux pas rentrer dans des questions d'identité, mais savoir qui on vient au sens collectif du terme, c'est « on », c'est tout le monde. Hein. Et d'ailleurs, les gens qui pensent qu'ils viennent pas d'ici, ils viennent d'ici. Et moi, je viens de partout. Enfin, ma musique, c'est Purcell, Schubert, Bach, Puccini, et Sting et les Beatles, il n'y en a pas un qui habite en France, quoi. Bon, donc il est clair que quand on dit on et quand on parle de sources, ces sources, elles sont vraiment extrêmement multinationales et extrêmement multiethniques, etc. C'est comme ça que je les entends et c'est comme ça que j'en jouis.
L'archive peut générer une musique ?
Alors ça, c'était la grande question que se posaient tous les gens quand je faisais des entretiens. Ils disaient, mais qu'est-ce que vous allez faire de ça? Mais comment vous allez me faire croire que vous allez écrire une musique avec ce que je vous dis? Ou mais comment on fait pour faire de la musique avec les archives? En fait, le processus s'est passé de la façon suivante. C'est que d'abord, je suis arrivé très, très innocent, très naïf. J'ai posé toutes ces questions. J'ai découvert ces livres. J'ai découvert cette problématique de la mémoire, du passé. Moi qui, par ailleurs, ne soigne pas ma propre mémoire, hein, ne me mortifie pas, puisque je fais des concerts qui sont tous uniques et qui sont pas enregistrés, etc. Donc, c'est une question qui était intéressante. Et petit à petit, je construis mon sujet. Et mon sujet, je me rends compte qu'à un moment donné, le sujet, il est très, 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 très dense, il est très complexe, et il faut que j'en choisisse quelques-uns. Et c'est là que je rentre dans la musique, c'est que je décide, par exemple, bon, je vous ai parlé tout à l'heure des contenants, je décide de faire un hommage aux contenants. Je trouve ça beau que cette boîte qui contient les archives, elle chante, et que tous ces gens qui travaillent sur les boîtes, ils sont très nombreux ici, à les fabriquer, à les organiser, à les étiqueter, ils sachent que je ne suis pas venu ici comme un intellectuel à chercher, je ne sais quoi dans la mémoire, que je me suis intéressé aux matériaux et que je fais un hommage aux matériaux, et à travers ça, c'est un hommage à eux. Donc il y a cette partie qui est une pièce pour percussion sur les boîtes. Alors vous allez me dire, bon, ça c'est le premier degré, disons, du travail, c'est utiliser le matériau et faire de la musique avec. Le dernier degré, c'est quand je vais chercher un texte de Michelet, un texte de l'archéologue, et que j'essaye de parler à la vie et à la mort, j'essaye de parler du présent, le présent entre la vie et la mort, entre la naissance et la mort. Alors ça, c'est un moment un peu plus, on va dire, un peu plus intellectuel, sauf que j'essaye de le traduire musicalement par des instruments anciens, un clavecin et un cornet à bouquin, et puis deux textes qui vont se croiser dedans, qui est donc le texte de Michelet et de l'archéologue, et qui à travers ça disent au public, regarde de quoi on essaie de parler, à travers cette musique ancienne, il y a du présent et il y a quelque chose qui se réalimente, et il y a aussi une bande magnétique qu'on entend dans le plafond, qui est une sorte d'écho des archives qui font des sons et qui nous descendent dessus, enfin, pour montrer que ça sourd là-haut. Alors ça, c'est un deuxième sujet. Le troisième sujet, c'est qu'il y avait plusieurs métaphores dans les archives, il y a ceux qui parlent en kilomètres, donc on a reçu les archives de de Seguin ou de Recard, là, qui est, alors on a reçu 150 mètres ou 1,5 km. Et puis, il y a les autres qui disent, c'est les grands fonds, quoi. C'est le flux, la rivière, l'océan des archives qui arrive tout le temps par flux et reflux, et dans lequel ils se noient, parce que on n'arrive pas à les gérer, toutes ces archives. Il y en a beaucoup qui sont pas documentées. Ça arrive par carton, ça arrive pas par papier, quoi. Et donc, du coup, cette notion d'aquatique, je trouvais qu'elle était assez juste, elle était assez intéressante. Et quand j'ai vu que les archives étaient entourées de bassins, j'ai eu envie de faire une pièce dans l'eau où on entendrait des archives qui sont descendues du magasin et on entend des... Donc j'ai plongé dans les archives, j'ai sorti des textes très intéressants et des textes moins intéressants, enfin bon, pour montrer que la diversité. Et puis, ils marchent dans l'eau et ils racontent des archives, ils se taisent, ils marchent, ils se taisent, ils reparlent, ils remarchent. Et tout ça avec deux flûtes et deux guitares qui, eux, travaillent sur la transmission. Ça prenne mutuellement des choses en cours de partition. Voilà, c'est pour donner trois exemples de comment est-ce qu'on se met dans la musique avec un sujet, quoi.
Et alors, à un moment donné, vous parliez au cœur et vous disiez au cœur, vous n'êtes pas un cœur, mais une foule, et je veux de l'hétérogénéité.
Ben oui, parce que dans certains moments, il faut qu'il soit... Bon, Catherine, elle, travaille sur l'homogène, elle travaille sur la notion de cœur, c'est-à-dire qu'on doit entendre, on doit avoir qu'une tête, quoi, c'est-à-dire qu'on doit entendre des notes qui sont très homogènes, mais il y a des moments donnés où, au contraire, c'est très important, par exemple, quand il chuchote, de ne pas entendre un brouhaha de chuchotement, qu'on entende vraiment un crépitement de gens qui vont plus vite que d'autres, de gens qui s'arrêtent, qui repartent, je crois que c'est très important qu'un cœur apprenne qu'il est fait de plusieurs unités.
Il y a aussi des enfants, et j'ai vu que dans l'archive, il y avait des dictées, des textes pour enfants qui étaient conservés ici. Et donc j'ai vu que ces enfants allaient lire, chanter ces textes.
Voilà, absolument. J'ai ressorti des textes qui avaient été écrits par des enfants à l'initiative de l'Éducation nationale en 1920, 1923, 1935. Et donc je les ai ressortis pour leur faire lire ça. Et puis alors, il y a une petite anecdote qui est un peu marrante, c'est que il y a un conservateur qui m'a dit, mais des fois il y a des chercheurs qui s'endorment sur l'archive, c'est-à-dire qu'ils viennent à la salle de lecture, ils ouvrent les cartons, et puis en fait ils sont fatigués, ils ont beaucoup travaillé, et à un moment donné ils mettent la tête sur le document et on voit un chercheur ou un historien qui a une tête dans la boîte et qui s'endort pendant une heure. Moi, j'ai trouvé ça charmant, enfin, j'ai trouvé ça très émouvant. De quelqu'un qui, en fait, l'archive l'accueille. Enfin, c'est comme un moment amoureux, en fait, hein. C'est que, comme ça, elle l'accueille, et lui, il lui fait confiance, et ils s'endorment ensemble. Bon. Alors, je me suis dit, ça, je veux la garder, cette histoire. Donc, au début de la pièce que vous avez entendue, les enfants sont là, ils lisent ils lisent leurs documents, ils les chantent, ils les parlent, et puis au bout d'un petit moment, ils s'assoupissent, et ils s'endorment sur l'archive. Bon, voilà, j'ai fait d'une anecdote, un moment musical qui est assez fort, parce que tout d'un coup, on se demande qu'est-ce qui se passe, parce que les enfants sont au milieu du public, et ils s'endorment, et on se dit, mais qu'est-ce qui va arriver, quoi? Le concert commence par un endormissement, enfin. C'est-à-dire que par une mise en confiance, en fait.
Il rêve alors.
Alors voilà, après on peut interpréter ce qu'on veut, c'est soit une mise en confiance, c'est-à-dire on s'abandonne, soit ils rêvent et ils construisent leur présent, leur futur, soit ils créent une écoute, parce que pour le public, d'un coup, le fait que des enfants qui parlaient se mettent à s'endormir, ça crée une tension, parce qu'on se dit qu'est-ce qui va arriver, donc ça fabrique une concentration formidable.
Quelle est la grande difficulté que l'on rencontre dans un projet de cette nature?
La logistique, la synchronisation, le fait de travailler avec des gens de tous bords, des enfants de Pierrefitte, des adolescents de Saint-Denis, des élèves de conservatoire, des professionnels qui ont des réflexes et qui viennent à des heures et qui repartent à des heures, une foule de techniciens, une scénographie assez énorme partout, dans un lieu qui est fortement sécurisé avec Vigipirate qui nous guette, où il faut faire attention à toutes les portes, à toutes les clés, à tous les matériaux et à tous les horaires. Au niveau logistique, c'est un projet qui est très lourd. Il y a 230 personnes impliquées dans ce projet, puisqu'il y a des hôtesses aussi qui guident le public, puisqu'il y a des vagues de public, comme les vagues d'archives. Hein. D'ailleurs, par exemple, le déplacement, pour moi, a été une donnée immédiate. Quand j'ai vu que l'archive ne faisait que de se déplacer, et que sa vocation était de bouger, paradoxalement, alors qu'elle est ici, elle sortait du ministère, elle arrivait, pour repartir, et repartir dans des livres, et repartir dans des histoires, je me suis dit, il faut que le public se déplace, et surtout ne vienne pas aux archives, comme on fait d'autres artistes ici, pour se poser et entendre quelque chose. Il faut bouger dans l'archive. L'archive, c'est quelque chose qui doit bouger. Il faut que le public comprenne que c'est pas de la poussière, c'est pas un truc ancien, c'est quelque chose qui doit, avec lequel on travaille.
Alors, cette archive, là, vous me dites qu'elle est très matérielle, alors que tout notre discours aujourd'hui, c'est sur plutôt la dématérialisation des archives. Là, vous n'en parlez pas. Est-ce que c'est quelque chose d'invisible?
La dématérialisation, par essence, c'est invisible. C'est justement enlever le matériau. La dématérialisation, c'est la folie d'Internet, qui est une ressource formidable qui nous permet, de chez nous, de ne plus rencontrer personne et de rencontrer le monde entier. Donc, voilà, on a décidé que les gens ne pouvaient pas accéder forcément au papier. Donc, on leur a scanné les papiers et après, ils ils vont sur Internet et ils voient le papier. Alors ça a le bénéfice, c'est qu'on a accès à tout, et ça a le dommage collatéral formidable, c'est que avoir accès à tout, c'est avoir accès à rien. C'est-à-dire que l'accès, c'est pas le document, c'est le chemin du document. C'est l'explication du document, c'est la rencontre. C'est la rencontre avec... C'est le même fait de soi-même de faire la démarche, d'y aller, de rechercher, de voir comment... de ne pas trouver, de trouver. C'est ça aussi qui fait partie de la recherche. Alors, bon, je ne veux pas non plus faire le jeu de l'ancien combattant. C'est très important. Moi, je suis très heureux d'aller sur Internet et de trouver tout en deux secondes. Mais je pense que il faut faire attention que ça ne crée pas chez nous une espèce de désir de consommation extrêmement futile, superficielle, qui consiste à se dire, puisque j'ai accès à tout. D'abord, je suis le roi du monde. Donc, si je suis le roi du monde, bah, j'ai pas besoin des autres. Donc, ça va me réindividualiser encore plus. Et puis ensuite, je sais tout. Hein, donc, ça, c'est encore un problème parce que. Et ensuite, je pense que ce qui est dans l'archive ou ce que je vois, c'est vrai. Or, rien n'est vrai. Tout doit être rediscuté. La controverse ne doit jamais s'arrêter. Personne d'entre nous n'a raison.